Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Daniel Tambizoni.
Retour hypothétique des déplacés de Bijombo dans leur milieu naturel de vie en territoire de Fizi à cause de l'insécurité. Une milice basée à Nyamara s'oppose à tout déploiement des FARDC et conditionne le retour de ces déplacés dans la région sous son contrôle. Flambée des prix des biens de première consommation dans la cité de Dungu. La flambée est consécutive à deux grands bourbiers sur la route Dungu-Isiro qui empêchent depuis une semaine déjà une trentaine de véhicules d'atteindre leur destination. La société civile s'inquiète de cet état des choses et interpelle. Les provinces du centre du pays ne pourront plus s'approvisionner par route à partir de Kinshasa. Le pont jeté sur la rivière Kasaï s'est effondré. Le gouverneur du Kasaï parle d'une accumulation de causes à la base de cet accident, dont le passage des camions lourdement surchargés et la vétusté de l'ouvrage construit avant la colonisation. Voilà pour les titres. Vous êtes tous les bienvenus à cette édition sur Radio Kapi. Sud Kivu, pour ouvrir ce journal de 8h sur Radio Okapi, le retour des déplacés internes de Bijombo dans leur milieu du territoire de Fizi devient de plus en plus hypothétique et pour cause, les conditions sécuritaires ne sont toujours pas rassurantes. Un groupe armé basé à Nyamara conditionne le retour de ces déplacés et s'oppose à tout déploiement des FARDC et des forces de la MONUSCO dans la zone sous son contrôle. C'est une correspondance de Emmanuel Elamejua Kabedi rendue par Jean Kassami.
La plupart des déplacés internes de Bijombo sont maintenant favorables pour leur retour sécurisé dans leurs milieux respectifs. C'est notamment ceux des localités du territoire de Fizi au-delà de la rivière Elila. Mais cette zone de Chakira, Kamombo, Kangwe est sous contrôle des groupes armés communautaires basés à Nyamara. Ces chefs de guerre et ex-officiers des FARDC devenus rebelles conditionnent le retour des déplacés dans la zone sous son contrôle. Selon lui, tous les déplacés qui désirent retourner dans cette partie du territoire de Fizi doivent obligatoirement s'installer aux abords de son quartier général. Ce rebelle qui a même reçu en début de cette semaine une délégation de membres de la communauté partie de Bijombo dit s'opposer à tout déplacement de l'armée régulière, même des casques bleus de la MONUSCO dans cette zone. Toutefois, seuls les quelques 1500 déplacés de l'axe Ishenge pourront retourner chez eux dans les jours à venir.
Une dizaine de cultivateurs du territoire de Beni arrêtés la semaine dernière par les FARDC à Boutoué et Vouovi dans la chefferie de Bachou a été relâché lundi après quelques jours de détention. Le coordonnateur de la nouvelle société civile dans la région renseigne que cette libération est intervenue après un plaidoyer des structures de la société civile qui ont défendu la cause de ces cultivateurs tombés dans le filet d'une patrouille alors qu'ils revenaient de leur champ, craignant que ce genre d'arrestation ne frustre la population pendant cette période de récolte. La nouvelle société civile demande aux forces de sécurité de faire leur travail dans le respect des droits de l'homme. Moïse Kipoutoulou, coordonnateur de la nouvelle société civile en chefferie de Bachou, joint au téléphone par Marc Maroufimbo.
Il y avait certains qui étaient arrêtés par les forces de l'ordre dans leur patrouille. Ils les avaient cueillis quand ils revenaient du champ. Ils sont déjà libérés par les agents de l'ordre après des explications de plaidoyer qui nous a rassurés tous de part et d'autre. C'est pourquoi nous les avons appelés à faire une patrouille mixte à vue de pérenniser la collaboration entre la population et les civils. Car cette situation risquerait de briser la collaboration entre ces services et la population. Nous voudrions que la population puisse chaque fois se munir avec des cartes. Nous demandons aussi aux services de sécurité à voir comment faire leur travail dans le respect de la population et des droits de l'homme, car cette situation risquerait aussi de créer d'autres choses, car la population y est en train d'effectuer des travaux pour la récolte de l'air commis février. C'est pourquoi nous les appelons à bien faire leur travail dans le respect aussi des normes.
Dans la province du Maniema, et nous venons de l'apprendre, Bernard Kifinyo, ancien milicien, chef du groupe Kifinyo qui opérait dans le secteur de Balanga en territoire de Kailo, a été arrêté mardi de cette semaine par le FARDC. L'information est confirmée par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Chéri Kimboissa Rouget, fait savoir que Bernard Kifinyo sera présenté dans 48 heures à l'autorité provinciale avant d'être mis à la disposition de la justice militaire. On écoute Chéri Kimboissa, joint au téléphone par Florence Kizalunga.
Nous saluons la bravoure de nos forces armées congolaises qui ont mis la main sur ces malfrats longtemps recherchés. Et je vous rassure, dans moins de 48 heures, il sera entre les mains du gouvernement provincial de Maniema. Il est déjà aux arrêts, je vous confirme cela. Et un moment à l'autre, il sera acquitté et il va répondre de tous ses actes. L'amnistie n'est pas du chef de l'État, mais il sera d'abord remis entre les mains de la justice congolaise et à la justice de s'occuper de lui. Bernard, il est chef de beaucoup d'exactions. Il a tué, il a enterré, il a ravi des armes. Donc, beaucoup d'infractions sont mises à sa charge. C'est à lui maintenant de se défendre devant les juridictions compétentes qui est l'auditorat militaire. Et d'ailleurs, nous saluons encore la cour militaire de Kindu, Maniema, parce que hier, elle a rendu plus tard la nuit vers le sujet de la condamnation à mort de ce malfrat commando qui a tiré à bout portant cette fille et blessé d'autres personnes. Il est condamné à mort et même toute la population maniémienne salue cette attitude de nos forces armées.
Dans la province du Haut-Uele, la société civile du territoire de Dungu s'inquiète du blocage d'une trentaine de véhicules à 4 km de la cité de Dungu depuis une semaine maintenant, en cause l'existence de trois grands bourbiers qui ne permettent pas à ces engins de progresser et atteindre leur destination. La conséquence est nette. Bien de produits manufacturés sont devenus rares sur le marché et leurs prix ont pris de l'envol. Le point avec vous, Jacques Mokonkole.
Ces véhicules en provenance de l'Ouganda et de Beni via Ariwara sont en partance pour Dungu et Ishiro. Certains pourront progresser même vers le Bazuele, affirme la société civile locale. Celle-ci rapporte également que cette route s'est dégradée davantage à la faveur de la fréquence des pluies pendant cette période, ce qui rend difficile la circulation des véhicules, occasionnant ainsi la flambée des prix des produits de première nécessité sur le marché local. À titre illustratif, souligne-t-on, le carburant, le sel et le sucre ainsi que des fournitures scolaires ont pratiquement doublé de prix. La société civile et l'association des chauffeurs du Congo, section de Dungu, demandent aux autorités politico-administratives du Haut-Uele de réhabiliter urgemment cette route d'intérêt économique et capital. En réponse à cette préoccupation, le ministre provincial en charge des travaux publics et infrastructures a déclaré que le gouvernement provincial va intervenir sur ce tronçon routier à partir de la semaine prochaine. Le docteur Norbert Mandana précise que pour le moment, le gouvernement provincial est en train de finaliser d'abord les travaux en cours sur le tronçon d'Urbatadou sur la nationale numéro 26. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Troisième jour ce vendredi depuis que la foire agricole a ouvert ses activités à Kolwezi dans la province du Lualaba, organisée par le réseau national de la femme rurale Refaner en abrégé. Cette foire reçoit les femmes venues de tous les territoires de la province du Lualaba. Elle expose les produits agricoles, fruits de leur labeur. Pour la responsable provinciale de ce réseau, l'objectif de la foire est d'une part autonomiser la femme et de l'autre lui permettre de contribuer elle aussi au développement du Lualaba qui renferme beaucoup de potentialités agricoles. Les détails avec Jolie Casal, présidente provinciale du réseau national de la femme rurale, jointe au téléphone par Jean Gandou.
Les femmes ont présenté le produit de leur coin, leur spécialité. Nous avons le riz des Bunkers, nous avons le riz des Fungurume, nous avons le riz des Dilolo, nous avons des bananes produites ici, nous avons des ananas des Dilolo, des Kasaji, des Kapanga, des Sandoa. Nous voulons limiter l'importation de produits de première nécessité. Nous sommes nourris presque par des pays voisins et pourtant notre province est immensément riche. Nous avons beaucoup de cours d'eau, ce qui nous permet de faire l'agriculture même pendant la saison sèche. Nous voulons arriver aussi à la transformation. Nous produisons beaucoup de fruits ici chez nous. Si vous venez, vous allez trouver des mangues pourries, des ananas qui pourrissent dans des plantations. Si nous transformons ces fruits-là en jus, je pense que nous allons vraiment relever notre économie et la femme sera autonome et autonomisée. Si nous cultivons, nous transformons, nous consommons local, je pense qu'il y aura une traçabilité. Nous avons besoin des unités de transformation, des industries de fabrication des bouteilles et en verre et des bouteilles en plastique. Il faudrait que les femmes soient accompagnées dans leur technique culturelle, dans les formations et dans la formation.
La province du Nord Kivu, le parc national de Virunga réagit aux allégations de détournement portées contre ses dirigeants par l'ONG Impunité Zéro. Ce sont des affirmations diffamatoires, peut-on lire dans le communiqué de presse du parc national de Virunga rendu public mercredi dernier. Sadiki Aboubakar a lu pour nous ce communiqué.
Le parc national de Virunga dit avoir constaté une campagne de diffamation sur les médias accusant la direction du parc de détournement des fonds. Dans le deuxième paragraphe du communiqué, le parc dit, je cite, « Les déclarations portées par l'organisation Impunité Zéro, dont la direction du parc ignorait l'existence jusqu'à la publication d'un article de presse récent, et les études qu'elle prétend avoir menées n'ont jamais été présentées au parc. » Ces affirmations ne sont basées sur aucun fait vérifiable, fin de citation. D'après le communiqué, ces manquements flagrants aux règles élémentaires des recherches tend à accréditer une intention délibérée de nuire. Le communiqué poursuit en disant que la direction du parc se réserve le droit de saisir les instances judiciaires pour qu'une enquête sérieuse soit menée afin de mettre à jour les motivations sous-jacentes à cette campagne de diffamation. Notez que l'ONG Impunité Zéro a, dans une déclaration de presse, accusé les gestionnaires du parc national de Virunga de détournement de plus de 50 millions d'euros alloués par des bailleurs dont l'Union européenne, Boutembo, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
En prévision des élections prochaines de 2023, les états-majors des partis politiques font le rappel des troubles. La société civile n'en est pas du reste. Le forum de la société civile de la RDC réunissant plusieurs sociétés civiles était en séminaire afin d'analyser la loi en vigueur, la loi numéro 13/012 du 19 avril 2013 qui modifiait la loi numéro 10/013 du 28 juillet 2010 et présenter leurs propositions. Le forum a porté des modifications des articles 10, 12 et 24 bis de la loi de la CENI avant que cette proposition ne soit présentée à l'Assemblée nationale. Lundi, quelques membres de cette structure ont tenu un point de presse afin de présenter ce document au public. On écoute Dr Bertien Sadi qui explique la modification de la loi numéro 10. Il est au micro d'Enoc Matondo.
Sans préjudice des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, la désignation des membres tient compte de la représentativité nationale. L'article 10 en résumé dit ceci. La CENI, 13 membres, 10 viennent des politiques et 3 viennent de la société civile. Nous nous sommes dit, là, il y a un problème. La CENI est censée être neutre. La loi actuelle consacre l'arbitrage aux parties prenantes, ce qui n'est pas normal. La loi actuelle, pour ce qui est de l'article 10, qui est l'article clé, doit être modifiée. Notre proposition de loi, de cet article-là, que nous avons formulée, elle est la suivante. Nous disons, la CENI est composée de 13 membres issus de la société civile, des forces politiques, de l'Assemblée nationale, à raison de 9 membres pour la société civile, 2 délégués pour la majorité, 2 délégués pour l'opposition, en tenant compte de la parité homme-femme.
Les mèches de cheveux et le carnet retrouvés dans les effets saisis sur Vincent Manga lors de son arrestation appartiendraient vraisemblablement à l'un des deux experts de l'ONU tués en mars 2017 au Kasaï. C'est ce qu'a révélé hier le ministère public au cours de l'audience devant la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental qui juge les présumés meurtriers de ces experts. Le prévenu a une autre version. Suivez les explications de Joël Bofingo qui suit pour Radio Capi ce procès.
Au cours de l'audience de ce jeudi, le ministère public s'est intéressé une nouvelle fois aux effets retrouvés sur Vincent Manga lors de son arrestation en mars 2018. Des mèches de cheveux et un carnet font partie des objets trouvés sur le prévenu. Dans ces carnets, il y avait des écrits et même un nom et une adresse du propriétaire. Le carnet et les mèches de cheveux appartiennent à la même personne, fait savoir le ministère public. Le général Mouaou laisse entendre que ces deux objets appartiendraient vraisemblablement à l'un des deux experts de l'ONU exécutés le 12 mars 2017 au Kasaï. Il demande alors à Vincent Manga de dire à la cour auprès de qui il a obtenu ces objets. Au sujet des mèches de cheveux, le prévenu reprend les récits relatés lors de deux précédentes audiences où il affirmait que c'est Jean Bosco Mukanda qui les lui avait remises en présence des trésors Poutou au mois de mai 2017. En ce qui concerne le carnet retrouvé sur lui, Manga soutient l'avoir acheté auprès des Kabongo Gérard, qu'il présente lui-même comme étant l'un des leaders de la milice des Moyo Musuila où les experts ont été tués. De Kananga, Joël Bofengo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a indiqué jeudi qu'au moins 140 personnes sont mortes dans le naufrage d'une embarcation des migrants la semaine dernière au large du Sénégal. Il s'agit de la pire catastrophe de ce type en 2020. Selon l'OIM, un bateau transportant environ 200 personnes, les autorités sénégalaises avaient rapporté un bilan d'au moins 10 morts pour une soixantaine de personnes secouru. Le 28 octobre dernier, 29 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes en Tanzanie pour les élections présidentielles, législatives et locales. Le président John Magufuli est candidat à un second mandat de 5 ans, alors que les résultats ont commencé à être publiés par la commission électorale hier jeudi. L'opposition a affirmé qu'elle ne le reconnaîtrait pas.
L'invité.
Le gouverneur du Donepiémé se désole de l'effondrement du pont jeté sur la rivière Kasaï et qui permettait aux provinces du centre de s'approvisionner par voie routière à partir de Kinshasa. Le gouverneur parle de l'accumulation de causes à la base de cet accident, dont passage de camions lourds surchargés associés à la vétusté de l'ouvrage construit avant la colonisation. Du Donepiémé s'entretient avec Joël Bofengo.
Bonjour Monsieur le Gouverneur, le pont Kasaï s'est effondré vendredi. Est-ce que vous en savez un peu plus sur les circonstances de cet accident?
Les circonstances immédiates de l'accident sont liées à une surcharge. Le pont a été sollicité de manière intensive depuis quelques jours, sinon depuis quelques mois, suite aux travaux de la construction de la nationale numéro 1 dans sa partie Chikapa-Kamoisha. Le pont a été très très souvent sollicité suite au déplacement des engins lourds. Le jour de l'événement, nous avions une grue qui était en train de traverser, qui est passée juste avant le camion qui a été pris au piège. Et donc, la traversée de ces deux engins a été quasi simultanée. Je pense que le pont a été largement sollicité au-dessus de sa capacité de résistance et ceci a donné lieu à cet effondrement.
Y a-t-il eu des morts?
Jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons enregistré aucun décès ni disparu. Évidemment, nous avons lancé un appel aux familles qui ont enregistré des personnes disparues pour qu'ils viennent se faire enregistrer, soit dans leur commune, soit à la mairie de la ville.
Monsieur le gouverneur, vous le disiez tout à l'heure, le pont est délabré depuis fort longtemps. Un temps, vous avez évoqué sa réhabilitation, mais pourquoi continue-t-on à circuler dessus si tout le monde s'est rendu plus ou moins compte que le pont était très vétuste?
Non, nous savons qu'il était vétuste, mais nous savions également en même temps qu'il pouvait encore supporter un certain tonnage. C'est ainsi que d'ailleurs, avant l'entrée dans le pont. Il y a des indications qui permettent aux chauffeurs et aux transporteurs d'être informés sur le tonnage qu'il ne fallait pas dépasser. Mais malheureusement, le véhicule qui était pris au piège à l'intérieur avait un tonnage supérieur à celui qui pouvait être supporté par le pont, d'une part, et d'autre part, la grue qui était également sur le pont et qui a échappé juste de justesse avant l'effondrement du pont, aussi était de tonnage supérieur. C'est pour ça que je dis que les causes immédiates pourraient être celles-là. Mais bon, évidemment, vous savez que plusieurs fois, nous avons déjà lancé des appels aux conducteurs à respecter ce genre de mesures. Mais bon, généralement, avec la complicité de certains agents véreux que nous plaçons pour surveiller ce genre de choses contre quelques billets violent les instructions que nous donnons.
Ce pont est d'une grande importance à la fois pour la ville de Chikapa mais aussi pour toute la région. Est-ce que vous avez pris des dispositions temporaires pour faciliter quand même la circulation des personnes et de biens pendant que le pont est dans cet état-là?
L'importance de ce pont n'a pas qu'un caractère économique.
Oui.
Il a aussi un caractère culturel. Laissez-moi vous dire que moi, j'ai grandi dans cette ville. J'ai vu ce pont depuis que je suis grand. J'ai utilisé ce pont pour aller à l'école. J'ai utilisé ce pont pour aller à Kananga. J'ai utilisé ce pont pour observer la beauté de la rivière Kasaï. Sur le plan culturel et sur le plan même de l'environnement, c'est un ouvrage très important. C'est pour ça que je vous dis que c'est une catastrophe pour la ville de Chikapa et toute la province du Kasaï. Et aussi, sur le plan économique, comme vous le dites, c'est pratiquement le point de jonction entre l'Est et l'Ouest de la République. Kananga ne pourra plus être approvisionné à partir par véhicule, pas à partir de Kinshasa. Bushimai, la même chose. Pour nous, c'est absolument capital que nous puissions rétablir la circulation sur la rivière. Et donc, nous avons de manière urgente décidé de prendre un bac qui était destiné à la cité du Kamonya, qui est en effort de transport et qui se trouve dans les environs de la ville de Chikapa, pour le jeter sur la rivière afin de permettre que les véhicules du tonnage correspondant puissent traverser. Très rapidement, nous pourrons avoir la solution pour la traversée des véhicules et des engins. S'agissant des personnes, le gouvernement provincial a a décidé de mettre en place une embarcation d'une capacité de 200 personnes pour organiser les traversées. Traversées que nous pensons pour les élèves gratuites, mais bon, pour les travailleurs, nous allons voir dans quelle mesure nous allons solliciter leur petite contrainte.
Monsieur le gouverneur, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Le gouverneur Dieudonné Piémé, gouverneur du Kassai, invité de ce journal, répondait à Joël Bofingo. Et c'est la fin de ce journal sur Radio Kapi. Merci à vous de nous rester fidèles.